Vous êtes sur RTL.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans l'heure du crime où nous allons voyager ce soir autour de cette voix que vous venez d'entendre jusqu'en Californie sur les traces de l'un des plus secrets, des plus ingénieux et donc des plus diaboliques serial tueurs et serial violeurs de l'histoire criminelle. Au moins 50 viols et 13 meurtres, même si le nombre exact des forfaits commis reste encore une énigme. Le 21 août, c'est tout récent et c'est pour cela que nous avons choisi aussi de vous raconter cette histoire. Ce jour-là, le parcours de Joseph James DeAngelo Jr., 74 ans, s'est définitivement arrêté devant le tribunal de Sacramento en Californie, celui qu'on avait longtemps surnommé, sans jamais pouvoir l'identifier, le tueur du Golden State, a plaidé coupable, reconnu ses crimes et négocié avec les procureurs pour pouvoir échapper à la peine de mort. Il restera enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Si l'histoire du tueur du Golden State est si captivante, si fascinante, c'est tout d'abord parce que pendant plus de 40 ans, DeAngelo, ancien policier, a échappé à tous les enquêteurs. Impossible de le retrouver en dépit des témoignages, des portraits robots, des traces qu'il avait parfois laissées sur les lieux de ses crimes. Un violeur et assassin qui avait ses rites, ses habitudes, conversé avec ses victimes avant de passer à l'action, terrorisé par ce monstre froid, par cette voix rauque et presque privée de souffle. Enquête stupéfiante, encore et surtout au regard de la façon dont Joseph James DeAngelo, devenu un retraité lambda, a pu être retrouvé et confondu grâce tout simplement à la généalogie sur Internet, grâce à ces banques de données qui collectent l'ADN de tout un chacun pour établir votre arbre généalogique ou révéler vos origines. Nous verrons comment le FBI a profité pour la première fois de ce réservoir d'ADN pour mettre un nom et un visage sur l'un des pires criminels des États-Unis, histoire dont nous allons remonter le fil avec nos invités. Le tueur du Golden State, une si longue enquête, c'est ce soir le programme de l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir à une enquête exceptionnelle. 40 ans pour retrouver l'un des assassins les plus sournois, les plus mystérieux de Californie, celui qu'on surnommait le tueur du Golden State. Ce 11 septembre 1975, à Visalia, une petite ville plantée au cœur de la Californie, un homme qui porte un masque de ski se faufile dans l'obscurité à la nuit tombée et pénètre dans une maison. Il a repéré Elizabeth Snelling, 16 ans, la fille de la famille. Il lui saute immédiatement dessus. Elle tente de se débattre et appelle au secours. Son père, le professeur Claude Snelling, arrive juste à temps pour s'interposer. L'agresseur sort un pistolet, tire et tue le professeur. Claude Snelling avait 45 ans. Il est à ce jour la première victime recensée de cet homme sans visage qui sera baptisé un jour le tueur du Golden State. Pour le moment, ce meurtrier qui s'est enfui à toutes jambes et sans parvenir à emporter avec lui la jeune Elizabeth, cet homme est désigné comme le rançonneur de Visalia. La police locale lui attribue pas moins de 102 cambriolages ou tentatives de cambriolage dans les maisons du coin. Jamais pris la main dans le sac en dépit des surveillances. Il a aussi attaqué et violé des jeunes femmes, jamais démasquées. À croire qu'il a beaucoup de chance ou qu'il sait déjouer les surveillances. Le rançonneur de Visalia, comme on l'appelle, est alors décrit comme un solitaire qui frappe la nuit. Un homme blanc, jeune, 1m80 environ, qui a pour manie de voler de petits objets à la façon d'un étrange collectionneur. Il délaisse l'argent liquide. Il a encore pour manie de poser sur les poignées des portes d'entrée des pièces de monnaie pour être sûr d'être averti si un visiteur indésirable pénètre dans la maison. Une seule fois, quelques mois après le meurtre du professeur Snelling, Un inspecteur de police lui a fait face dans un garage obscur. Il n'a pu qu'entendre la voix de cet homme, une voix qu'il a supplié de ne pas tirer avant de dégainer et de faire feu et de réussir, in extremis, à s'enfuir. Si l'inspecteur William McGowan avait pu attraper cet individu, il aurait, sans le savoir, évité l'une des pires dérives criminelles de l'histoire. Après 2 ans de vol et de viol, le rançonneur de Visalia disparaît, mais il va vite ressurgir, toujours en Californie, mais sous d'autres pseudonymes. Bonsoir Philippe Corbet.
Bonsoir Jean-Alphonse Richard.
Vous êtes notre correspondant RTL à New York. Dans cette affaire, Philippe Corbet, on va bien sûr la détailler tout de suite dans l'heure du crime. On a le sentiment au tout début qu'elle passe totalement inaperçue en Californie, parce que c'est un très grand état et qu'on a sans doute d'autres chats à fouetter à l'époque.
Oui, c'est une petite ville, Visalia, qui est un peu perdue entre Los Angeles et San Francisco, dans cette zone où il y a assez peu d'habitants finalement. Et puis ce sont des... Vous l'avez indiqué, c'est d'abord un cambrioleur. Enfin, d'abord, c'est un voyeur. C'est quelqu'un qui rôde autour des maisons, qui regarde à travers les fenêtres. C'est un voyeur. Cambrioleur, parfois, il ne repart qu'avec une tirelire. Il laisse les objets de valeur, il laisse les carnets de chèques. On ne sait pas très bien ce qu'il cherche. Il y a quand même cette dimension de prédation sexuelle qui est présente, mais ça n'est pas un serial killer ou un violeur en série marquant. Et donc, finalement, il n'y a pas des moyens spectaculaires qui sont mis en œuvre pour le rechercher. C'est pour ça que cette affaire, à l'époque, finalement, elle n'intéresse pas beaucoup au-delà de cette communauté un peu perdue entre Los Angeles et San Francisco.
Et j'ajoute à cela, Philippe, en deux mots, c'est qu'il y a eu d'autres cas emblématiques. Je parle de Charles Manson, par exemple. Il y a eu des affaires terrifiantes. Donc celle-ci, elle passe inaperçue.
De terreur, de sauvagerie totale, d'idées quand même que on était 4 ans après la mort de Sharon Tate, il y avait quand même une dimension presque sauvage dans ces meurtres-là, alors que le prédateur, le rançonneur de Visalia à côté était un voyeur, cambrioleur, c'est pas du tout cette dimension-là, si vous voulez, sauvage.
Tout à fait. Et Élise Costa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Toulouse. Vous êtes chroniqueuse judiciaire pour le site Slate et vous avez rédigé un très long dossier très intéressant sur le Golden State Killer. Je vous pose un petit peu la même question. On ne prend pas garde de cette histoire à l'époque, mais il faut dire aussi que à l'époque, la police n'a pas l'attirail scientifique qu'elle possède aujourd'hui.
Non, effectivement, ça se passe dans les années 70. De mémoire, ça commence en 1974. Mm-hmm. Donc non, mais il y a quand même quelque chose à noter. Par exemple, on a souvent comparé cette affaire à celle du Zodiac.
Mm-hmm. Qui est une autre Zodiac, grande affaire, le serial killer du Zodiac.
Qui est une affaire très très connue de serial killer. Mais... pourquoi ? Parce qu'en fait, le Zodiac, c'était lui-même surnommé le Zodiac. Il envoyait des lettres aux journalistes avec des symboles, avec des messages codés. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, le Golden State Killer, on n'est pas là-dedans du tout. La ville, la Visalia, c'est une petite ville, mais c'est pas une petite ville tranquille et sans histoire non plus. Elle a un taux de criminalité comme beaucoup d'autres villes. Parce que c'est une image toujours un peu rassurante de se dire...
Oui, la petite maison, les lotissements,
exactement.
Etc.
Hein, exactement, l'Amérique le loup tranquille. Qui pénètre dans la bergerie. Exactement. Et en fait, non, c'est une ville tout à fait banale. Et je pense que ça a participé au fait qu'on en entende peu parler.
Les policiers de Visalia ont perdu la trace du rançonneur. Ils ignorent que cet homme va continuer à frapper à quelques centaines de kilomètres dans cette immense Californie où à l'époque, évidemment, les polices locales ne se préoccupent guère de faire des rapprochements entre telle ou telle affaire. Le tueur du Golden State, 40 ans de crime, la traque d'un monstre insaisissable. C'est l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, la trajectoire vertigineuse du tueur du Golden State, assassin et violeur en série, condamné le 21 août à la prison à vie. Il aura fallu 40 ans pour lui attribuer un nom et un visage. En cette année 1976, la Crime Squad, la police criminelle de Sacramento, commence à suivre à la trace les forfaits d'un homme qui écume la région. Rancho Cordova, Citrus Heights, Carmichael, Foothill Farms, aucune localité n'échappe aux attaques du violeur de l'East Area, comme on l'a surnommé. 50 viols recensés pendant 3 ans, dont une trentaine dans la banlieue proche de la ville. Le 2 février 1978, il n'a pas hésité à abattre un jeune couple de Sacramento, Brian et Cathy Maggior, qui lui échappaient. La police ne sait pas alors que c'est le même homme qui se déplace dans le secteur de Los Angeles, où il a ici un troisième sobriquet, The Night Stalker, l'homme qui suit dans la nuit. Toujours le même mode opératoire, des attaques méticuleusement préparées. Il passe des heures, parfois dissimulées dans des buissons, à guetter ses proies, à attendre le moment où elles seront seules. Il visite parfois les lieux avant d'agir. Il dévisse les ampoules électriques sous les porches, déverrouille les fenêtres, cache sous les coussins d'un sofa des cordes ou des lacets qu'il va utiliser. Quand il trouve une arme, il la vide de ses balles. Il passe à l'action le visage couvert de lunettes de ski, braque une lampe de poche sur le visage de sa victime, la ligote et la viole. Le mari ou le compagnon, s'il est présent, est lui tenu en joue et attaché, contraint de s'agenouiller. Le violeur lui pose alors des tasses en équilibre sur le dos et avertit « Si j'entends la tasse cliqueter, je descends tout le monde ». La terreur règne dans ce coin de Californie. Rien que pour l'année 1977, cet homme a attaqué pas moins de 28 femmes. La police arrive toujours trop tard et les souricières ne fonctionnent pas. Elle recense les détails, les habitudes, les indices laissés par ce criminel prudent et maniaque pour essayer d'en tirer un portrait de plus en plus précis. Un homme qui attache ses victimes avec une sorte de nœud très particulier, un nœud diamant qu'on enseigne dans la marine ou dans l'armée. Il se pourrait donc que le violeur soit un militaire. On sait encore de lui qu'il a un tout petit pénis, qu'il dégage une odeur corporelle fétide et que, très étonnant, les chiens de garde n'aboient jamais en sa présence. Un homme athlétique, imberbe, qui module sa voix selon les circonstances, jouant avec les graves et les aigus. Élise Costa, je reviens vers vous. Vous êtes chroniqueuse, judiciaire pour le site Slate. On a très vite tout l'attirail du serial violeur.
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez exactement par attirail, mais en tout cas, il est très organisé.
À travers ses manies, en tout cas, c'est quelqu'un de très organisé, très méticuleux.
Tout à fait. Hein,
voilà, donc racontez-nous un petit peu ces surveillances, ces attentes de victimes dans des buissons, notamment.
Mais en fait, il attend, il guette tout simplement le moment où soit la victime sera seule, soit où il pourra agir sans être repéré, mais il a même ce que je qualifierais d'une organisation un peu perverse. Mm-hmm. Je sais même pas pourquoi je dis un peu, parce que c'est une
Totalement.
Organisation perverse. C'est ce que vous en avez parlé dans l'introduction, et ensuite, effectivement, il pose des pièces sur les poignées de porte. Il met les maris ou les conjoints des victimes dans une autre pièce avec de la vaisselle sur le corps, et que en leur disant « si jamais j'entends un seul bruit, ça va mal se passer mm-hmm. ». Donc il est, en tout cas, il a réfléchi à ce qu'il allait faire, et c'est pas improvisé du tout, quoi. Ça, c'est clair.
Donc c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps. Comment, à ce moment-là, on n'arrive pas à l'attraper ? C'est très étonnant, ça. On l'a quasiment jamais surpris.
Non, c'est vrai. Parce que je pense qu'il avait une très bonne technique de lorsqu'il rôdait, il ne faisait pas de bruit. Plusieurs victimes disent qu'en fait, elles se sont aperçues de sa présence, elles ont senti une présence derrière elles. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant, elles n'ont pas entendu de pas dans l'allée ou très peu. On entendait juste le bruissement des feuilles et c'est tout. Donc Je pense que, et puis comme on a dit tout à l'heure, effectivement, l'absence de technique, il a quand même été pas loin d'être attrapé à quelques reprises, notamment une fois où il s'est enfui à vélo.
Enfui à vélo, oui, poursuivi par des policiers, c'est ça, à l'époque?
Exactement, ouais.
Et donc c'est quelqu'un qui a le sens du camouflage, de la dissimulation, ce qui fait penser presque quasi immédiatement à un militaire. Avec aussi cette histoire le fameux nœud diamant, c'est une piste que vont suivre au début un petit peu les enquêteurs.
Oui, c'est ça, et qu'il serait très organisé. On pense qu'il a cette organisation, il l'a aussi chez lui, dans son foyer familial, quoi.
Philippe Corbet, notre correspondant à New York, décrivez-nous un petit peu cette Californie immense où décidément les criminels peuvent s'abriter comme ils le veulent.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un peu du mal à l'imaginer vu de France, mais la Californie a une grande taille, avec des bassins de population qui sont assez distanciés de plusieurs centaines de kilomètres, et une organisation, il n'y a pas l'équivalent de la gendarmerie nationale ou de la police nationale aux États-Unis. Alors, il y a effectivement le FBI qui permet de travailler entre États, mais globalement, les polices sont organisées de façon locale, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'un comté ou elles dépendent d'une ville, et donc la communication, même si elle existe, des contacts existent, la communication n'est pas centralisée, elle n'est pas aussi fluide que ça pourrait être le cas, par exemple, dans la police nationale française. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a, vous disiez que très vite, les enquêteurs comprennent qu'il a été dans l'US Navy pendant la guerre du Vietnam. Ils comprennent aussi qu'il a probablement un rapport avec, soit il a été dans la police, soit il est toujours dans la police.
Soit il les connaît très bien.
Oui, parce qu'il utilise des techniques. Alors, c'est des petites choses sur les scènes de crime, des techniques pour ne pas être repéré. Au-delà des gants pour empêcher de mettre des empreintes, il y a dans la manière dont il s'organise, il sème des pistes pour tromper le travail des enquêteurs. Et il y a même une scène assez stupéfiante, puisque donc cette année 77, là, il y a une forme de panique, notamment dans la Californie du Nord entre San Francisco et Sacramento. Il y a des réunions qui sont faites avec des habitants très inquiets. Et notamment, il y a une enquêtrice qui a raconté ces dernières années qu'elle a participé à une réunion en 77 pour, d'une certaine manière, donner des conseils aux gens qui avaient peur, notamment les femmes qui avaient peur, en disant « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger ?» Enfin voilà, les signes avant-coureurs. Et là, il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main et qui dit « mais je constate en fait qu'il n'attaque que quand les femmes sont seules ». Et effectivement, il trouvait des femmes, ils arrivaient à trouver leur emploi du temps, le mari était à l'hôpital ou le mari était en déplacement, et donc il n'attaquait que des femmes seules. Et là, ce jour-là, les enquêteurs disent dans cette réunion, oui, il n'a attaqué pour l'instant que des femmes seules. Et à partir de là, cet homme qui avait posé la question, peu de temps après, est attaqué chez lui. Sa femme violée et lui attaché.
Incroyable.
Dans le scénario que vous avez décrit.
Incroyable.
C'est-à-dire que les enquêteurs sont convaincus que le tueur était dans la salle ce jour-là et a cherché à prouver, finalement, à défier le schéma que développaient les enquêteurs.
Absolument incroyable. Cet homme ne va cesser de frapper jusqu'en 1986. Le 4 mai, à Irvine, Janelle Cruz, 18 ans, est violée et battue à mort. C'est la toute dernière victime recensée. Le violeur et assassin va alors complètement disparaître, ne plus faire parler de lui. On pense qu'il est tout simplement mort, mais l'enquête va continuer. Les premiers recoupements effectués jusqu'à ce que l'ADN, un jour, fasse jaillir la lumière. Le tueur du Golden State, 40 ans pour attraper le plus secret des criminels. L'enquête continue dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, dans l'heure du crime, un parcours effrayant et fascinant. Celui du tueur du Golden State dans les années 70-80 aux États-Unis. Un visage qui va commencer à se préciser. Dans les années qui suivent le dernier viol et meurtre en 1986, les enquêtes se relâchent autour de cet homme successivement baptisé le rançonneur de Visalia, le violeur de l'East Area ou l'homme qui suit dans la nuit. Car dans tous les cas, c'est bien de la seule et même personne qu'il s'agit. Larry Crompton, un policier du comté de Contra Costa a recensé toutes les scènes de ces crimes et noté les similitudes. Une journaliste et chercheuse, Michelle McNamara, spécialisée dans les affaires criminelles non résolues, se penche également sur ces viols et ces meurtres si ressemblants. C'est elle qui va trouver un seul et même nom pour ce personnage, le tueur du Golden State, le tueur de la Californie. Les enquêtes de la chercheuse et celles du FBI, qui se décident à recenser tous ces cas de viol et meurtres ressemblants, permettent de resserrer l'étau autour du tueur. Un homme bavard avec ses victimes, à qui il raconte des anecdotes vraies ou fausses sur sa vie. Il lui arrive aussi de pleurer après avoir violé sa 36e victime. Il éclate en sanglots et s'exclame « je te déteste, Bonnie ». Les enquêteurs vont longtemps chercher cette Bonnie qu'ils finiront un jour par identifier. La voix du tueur du Golden State est enregistrée sur des répondeurs téléphoniques de victimes. « Je vais te tuer, je vais te tuer » ou celui d'une association d'aide psychologique. « J'ai envie de recommencer, je ne veux pas le faire, puis je le fais ». Sur ces enregistrements, on croit parfois entendre, en fond sonore, le bruit d'une radio de la police, comme si l'homme écoutait les fréquences des forces de l'ordre, ce qui expliquerait son aptitude à leur échapper, tendait l'oreille. Une voix terrifiante, un violeur-tueur bavard, il apparaît aussi dans les rapports que cet homme frappe toujours en dehors des périmètres où se trouvent des policiers. Un criminel décidément très bien informé, trop bien informé au point qu'on va se poser la question suivante. Et si cet homme était lui-même un policier ? Question qui, dans un premier temps, restera sans réponse. Élise Costa, chroniqueuse judiciaire pour le site Slate. .fr. Alors les policiers ont l'impression de s'approcher du but, mais en fait c'est essentiellement grâce à cette chercheuse dont je viens de donner le nom, Michelle McNamara, que tout va être relancé. C'est bien ça, elle a même écrit un livre sur le sujet que vous avez lu.
Relancer. Alors, en fait, le dossier n'a jamais été fermé, parce que c'est quelque chose qui continuait. Et d'ailleurs, tous les policiers qui étaient intervenus dessus, tous les enquêteurs avaient été tous ressortis de là complètement rincés et ils étaient obsédés par cette affaire. Donc, je dirais que Michelle McNamara, elle a relancé l'intérêt du grand public. Où elle l'a tout simplement lancé. Mais au sein de la communauté des passionnés de serial killer, parce qu'il y en a, l'affaire était connue. Donc tout ce qu'elle a fait, c'est mettre la lumière en fait sur cette affaire qui l'a révoltée, justement parce qu'on n'en parlait pas assez.
Elle a collecté elle aussi beaucoup d'informations, il faut le dire, qui vont être relatées dans ce livre. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a quand même donné une étincelle au FBI pour que les choses peut-être avancent plus vite ? On a fini par l'écouter.
Oui, tout à fait. Non, on peut tout à fait le dire parce qu'en fait, elle était en contact avec eux. Elle était tellement passionnée par l'affaire qu'elle avait fini par rentrer en contact avec eux. Alors au début, évidemment, ils étaient méfiants et ils ne voulaient pas lui parler. Puis quand ils ont vu à quel point elle connaissait le dossier et qu'elle avait rencontré chaque victime et que voilà, en fait, elle était au même niveau qu'eux. Là, ils ont bien voulu parler avec elle et ils ont bien voulu surtout échanger avec elle. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est surtout qu'elle a, comment dire, elle a nourri un peu la machine en remettant à chaque fois une pièce, en les relançant à chaque fois et en disant « Ah tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que ça serait possible ?» Et donc, à sa manière, évidemment, elle a participé à l'enquête.
Et à partir de là, on peut aussi le dire, Élise Costa, à partir de là, le FBI va vraiment progresser ou bien ça va être stationnaire encore pendant des années ?
C'est un peu concomitant. Il faut savoir qu'en fait, les progrès de l'ADN sont aussi, à ce moment-là, commencent vraiment à
se dessiner.
Oui, voilà, exactement. Donc, et Michelle McNamara est très intéressée par l'ADN et elle donne d'ailleurs cette piste. Elle dit, et si on rentrait le seul ADN qu'on a dans la machine, enfin sur Internet, et qu'on essaie de on essayait de retracer son son arbre généalogique.
Son parcours. Elle est visionnaire. Il faut dire que c'est une femme, une écrivain qui est décédée aujourd'hui, hein, mais elle a eu cette lueur et cette prémonition presque que la clé se trouvait dans l'ADN, et puis on le verra pas dans la généalogie. C'est bien ça, hein, ça c'est pour ça qu'elle est importante dans le dispositif.
Complètement. Et puis, mais comme vous l'avez signalé, elle est décédée. Et même, on peut dire que ce livre et que cette affaire l'a tuée, parce qu'en fait, ça l'a obsédée à tel point qu'elle a commencé à prendre des médicaments pour pouvoir suivre, et le soir pour pouvoir s'endormir, parce qu'elle avait du mal à s'endormir. Et jusqu'au moment de l'overdose, quoi.
Elle était épuisée et fascinée par cette histoire. Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis, très étonnant cette connexion entre une écrivain et la police. Il n'y a que chez vous que ça se passe comme ça aux États-Unis.
Oui, il y a eu aussi un moment, vous l'avez évoqué, le moment en 2001 où finalement il relie ces différentes affaires, où ils comprennent avec l'ADN et avec aussi un travail de police et d'éléments qu'ils ont. Et en gros, ça fait une vingtaine d'années maintenant, donc 17 ans avant l'arrestation de DeAngelo, qu'ils ont compris que c'était un seul et même tueur. Et d'ailleurs, l'idée de l'appeler Golden State Killer, c'était une manière de trouver un titre, un nom journalistique,
générique,
qui pourrait être repris par la presse, générique, alors que jusque-là, il y avait un nom de dossier, je crois, avec un acronyme qui était tout à fait barbare. Et c'était aussi l'idée que cette histoire-là, pour que, encore une fois, comme c'est très long, ça coûte très cher, pour que les autorités politiques et de justice continuent à mettre de l'argent sur ce type d'affaires, il fallait qu'il y ait un intérêt, une importance pour le public. Donc ce travail-là, ce travail d'intérêt journalistique a été essentiel, parce que on va le voir, on va en parler, mais la manière dont le travail génétique qu'ils ont fait a pris énormément de temps, a coûté beaucoup d'argent, et il n'aurait pas été fait si cette affaire était restée au fond d'un tiroir et n'avait intéressé personne.
Oui, ça veut dire que, notamment, le gouverneur de Californie, je pense, a eu son mot à dire dans cette affaire. Il fallait alimenter absolument la police, qui vit beaucoup de dons aux États-Unis, hein, il faut le rappeler, et c'est une affaire pareille coûte très cher.
Donc le FBI dépend, le financement dépend de l'État fédéral, mais vous avez donc les polices locales qui dépendent soit de l'État, soit de la ville. Là-dedans, vous avez par exemple des affaires qui sont passées dans la banlieue de San Francisco avec des polices assez riches. La banlieue Visalia, c'est moins grand, avec des polices moins riches. Donc tout ça compte aussi, et le travail journalistique de cette dame a permis de maintenir et de relancer régulièrement l'intérêt, et donc de débloquer les fonds nécessaires.
En 2016, le FBI promet une récompense de $50,000 pour tout renseignement qui mènerait au tueur du Golden State. Pas de suite de ce côté-là, décidément, cet assassin n'a laissé derrière lui aucune trace, n'a jamais manifestement confié à quiconque ses horribles forfaits. La vérité va pourtant surgir, mais d'une façon totalement inattendue, sous la forme d'un arbre généalogique. Le tueur du Golden State, une empreinte familiale pour résoudre l'enquête. La suite dans l'heure du crime. A tout de suite sur RTL.
L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir au tueur du Golden State. 40 ans après les premières attaques de ce violeur et assassin solitaire, une parfaite énigme criminelle, la police va faire appel à la généalogie. La police a depuis des années accumulé les descriptions, recensé les indices, mis sous scellé les enregistrements et les objets manipulés par ce criminel invisible. Elle ne dispose pas d'empreintes digitales, l'homme a toujours porté des gants en cuir, mais elle détient de l'ADN. Une trace parlante et lisible a été collectée après son ultime viol et meurtre, celui de Janelle Cruz. Cet ADN-là n'est pas comme les autres. Il recèle, en effet, un marqueur rare qui touche seulement 20% de la population, une anomalie inoffensive du groupe sanguin. Les scientifiques ont également trouvé chez le tueur du Golden State un gène particulier. Sauf qu'un ADN isolé ne sert strictement à rien en matière criminelle. Il faut pouvoir le comparer et celui du tueur ne surgit dans aucun fichier. Les enquêteurs vont alors utiliser un tout autre moyen pour faire parler l'ADN. Utiliser une banque de données qui recense les profils ADN, se servir dans un site internet grand public, GEDmatch, qui établit des arbres généalogiques, vous livre vos possibles origines grâce à votre profil génétique. Il suffirait qu'un parent du tueur du Golden State se soit inscrit sur ce site avec son profil ADN pour établir une correspondance et avoir un fil qui puisse conduire à l'identité de l'assassin. C'est un pari à tenter. Contrairement à d'autres banques de données ADN volontairement alimentées par leurs abonnés, GEDmatch est un accès libre. Pas besoin pour la police de mandat judiciaire impossible à obtenir pour aller examiner les profils qui s'y trouvent, très nombreux, pas moins de 650 000. Philippe Corbet, notre correspondant aux États-Unis pour RTL, cette histoire d'utilisation d'un site généalogique, c'est vraiment une première judiciaire aux États-Unis et sans doute dans le monde.
Ah oui, je me souviens du jour, j'étais dans le train de retour de Washington où on a donc eu les informations sur la résolution de cette affaire du Golden State Killer et j'essayais de comprendre dans ce train, compliqué. Parce que je devais faire un sujet pour RTL, comment l'expliquer, enfin, c'est stupéfiant. J'ai fait depuis sur RTL un certain nombre de sujets sur différentes affaires qui ont été résolues comme ça. Je crois qu'on est à près d'une centaine. C'est vraiment une révolution, la généalogie génétique. Alors, ça serait pas possible en France pour l'instant, enfin en tout cas parce que ici il y a à la télévision des publicités tous les jours pour des sites pour retrouver ses ancêtres. Alors en réalité ce que moi je l'ai fait l'année dernière, vous recevez une fiole chez vous, vous commandez, ça coûte quelques dizaines de dollars, vous recevez une petite fiole, vous mettez votre salive dedans, vous la renvoyez à l'adresse indiquée, quelques semaines plus tard, vous avez un lien pour accéder sur internet à un fichier, pas un fichier d'ailleurs, mais à une sorte de carte de vos origines. Et donc par exemple, on va vous dire que vous êtes 30% d'origine italienne, 22% d'origine d'Europe de l'Est, 15% d'origine de l'Asie du Sud-Est, etc. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est vraiment ça qui est grand public, qui est
c'est le côté ludique. Hein. Ouais.
Oui, mais il faut aussi comprendre, parce que je sais que c'est interdit en France, mais ici, tous les Américains, sauf ceux qui sont descendants d'Américains natifs colonisés, tous les Américains, soit ils sont descendants d'immigrants venus d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique latine, soit d'esclaves venus d'Afrique. Et donc en fait, il y a un vrai intérêt collectif à retracer ses origines, et pas seulement pour le plaisir de retrouver sa grande-tante, mais aussi pour comprendre d'où on vient. Et donc il y a des émissions à la télévision où des célébrités viennent et font un test génétique pour retrouver leur histoire. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très courant. Joe Biden, par exemple, l'a fait pour retrouver ses origines irlandaises. Il n'y a pas d'aspect controversé autour de ça ici. Mais ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est que, vous l'avez indiqué, ce n'est pas forcément ce type de fichier qui a été utilisé. Il y a par ailleurs une deuxième démarche où quand vous avez votre test GDN, ADN, vous pouvez aller sur un autre site pour reconstituer votre arbre généalogique. C'est une sorte de salle de marché où vous dites, regardez, je mets mon ADN sur la table, est-ce qu'il y a d'autres ADN qui se ressemblent ?
C'est ça, les croisements familiaux.
Voilà. Et en fait, et là, vous pouvez trouver. Alors moi, par exemple, j'ai trouvé un cousin. C'est même pas un cousin. C'est-à-dire qu'on a des ancêtres communs qui remontent au 19e siècle, qui habitent au Canada et qui, dont ses ancêtres ont quitté le village voisin de celui où étaient mes ancêtres au début du 20e siècle. Ça veut dire que si je commets un crime ici à New York demain, ou si on retrouve mon ADN quelque part, la police peut remonter jusqu'à ce Maurice qui habite dans le Manitoba au Canada, que je ne connais pas. Je n'ai aucun contact avec lui, mais ils peuvent remonter jusqu'à lui parce que nous avons un cousinage génétique.
Et Elise Costa, c'est effectivement grâce à un parent, finalement, qu'on a retrouvé le tueur du Golden State. Vous écrivez dans votre enquête, très très bien documentée sur Slate.fr, que notamment il a un profil génétique très particulier, cet homme.
Oui, et ben effectivement, il a ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, il ne correspond pas en fait à l'homme lambda. Mm-hmm. Mais c'est pas, disons que ça aide parce que c'est un indice, mais c'est pas tant grâce à ça qu'on va le retrouver. On va quand même le retrouver, comme vous expliquez très bien, Philippe, grâce à ce site qui est en open source et qui permet à tout à chacun de retracer son arbre généalogique. C'est ça, la clé, elle est vraiment là. Et après, ils ont été face à un problème qui était comment on fait la comparaison et comment on va
le remonter jusqu'à lui.
Voilà, exactement. Comment on va remonter jusqu'à lui et avoir son ADN, prendre son ADN pour voir si ça correspond.
Parce que là, Élise Costa, qu'est-ce qu'ont les enquêteurs? En fait, ils ont un morceau d'arbre généalogique, si je comprends bien, avec probablement, je ne sais pas, un parent éloigné, un cousin. Donc, ils vont faire absolument tout l'entourage de cette personne. C'est bien ça.
Ils vont faire tout l'entourage et ils vont voir après. Du coup, ils vont mener une enquête sur chacune de ces personnes qui rentrent. Enfin, petit à petit, la liste quand même s'amoindrit et ils vont arriver à 6 personnes. Et ensuite, ils vont enlever petit à petit, par exemple, Samy, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie à New York ou au Canada. Eh bien, on va l'enlever de facto. Et petit à petit, ils arrivent à tomber sur cet homme qui vit en Californie et qui vit dans le quartier où ont été agressés.
C'est ça, l'étau va se resserrer progressivement. On va effectivement avoir plus qu'un seul nom sur les 6 que vous présentez. Je suppose que ça a été quand même très long à se dessiner, tout ça. Ça prend des mois d'enquête et de vérification pour le FBI.
Ça prend des mois d'enquête, ça prend des mois d'autorisation également. Effectivement, ça coûte de l'argent, mais il faut pas oublier que cette affaire, quand même, elle motivait énormément les enquêteurs. Parce qu'il y avait beaucoup de victimes, dont beaucoup étaient encore en vie, qui étaient marquées par cette histoire et qui n'arrivaient peut-être pas à s'en sortir. Donc il y avait quand même une motivation derrière, et cette motivation, c'était de le retrouver.
Une recherche qui porte donc ses fruits et qui, après bien des recoupements, mène à un seul homme. Un certain Joseph De Angelo, toujours vivant, il a 72 ans, un ancien flic. La première intuition des enquêteurs était donc la bonne. Et qui vit comme un retraité tranquille, avec sa fille et sa petite-fille, à Citrus Heights, une petite ville où il avait perpétré viol et cambriolage. Le tueur du Golden State, quand la généalogie permet de résoudre une enquête. C'est l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, le tueur du Golden State, tueur et violeur en série, a fin identifié après 40 ans de vaines recherches par l'ADN et la généalogie. Au matin du 24 avril 2018, Joseph De Angelo est arrêté au 8316 Canyon Oak Drive, devant sa maison de Citrus Heights, où il était en train de tondre la pelouse. Les policiers du FBI l'ont embarqué dans une voiture banalisée. L'homme n'a pas protesté, il a simplement fait savoir qu'il avait un rôti dans le four et qu'il ne devait pas s'absenter trop longtemps. Le rôti attendra. De Angelo est conduit dans les locaux du shérif, puis transféré à Sacramento. Pas de doute sur son ADN, un prélèvement indique qu'il correspond à 99,9% à celui du tueur du Golden State. Joseph De Angelo est né le 8 novembre 1945. Il a été officier de police à Exeter, tout près de Visalia, lieu de ses premiers cambriolages et d'un premier meurtre. Puis, il a été en poste près de Sacramento, un uniforme qui lui a permis alors d'échapper aux soupçons et d'être parfaitement informé des faits et gestes de ses collègues. En 1979, il a été exclu de la police pour avoir volé un marteau et une bouteille de répulsif pour chien dans une grande surface. Un outil qui lui servait à frapper ses victimes et un produit utilisé pour neutraliser n'importe quel molosse qui, du coup, n'aboyait plus. Les enquêteurs apprennent aussi que De Angelo a servi quelques mois dans les Marines, où il aurait appris à faire le fameux nœud diamant. À une époque, il avait failli se fiancer à une certaine Bonnie, ce prénom qu'il prononçait parfois lors de ses viols. Il se mariera à une autre femme et aura 3 enfants qui ne soupçonneront jamais que leur père était un monstre. Le 29 juin, Joseph De Angelo a comparu devant un tribunal de Sacramento. Il va alors plaider coupable pour éviter la peine de mort.
Murder in the first degree, how do you plead?
Guilty. Meurtre au premier degré, comment plaidez-vous? Coupable. Philippe Corbet, je suppose que l'Amérique était abasourdie devant ce spectacle, ce détenu en combinaison orange, la fameuse détenue des prisonniers américains.
Oui, en plus c'était tout cela a été compliqué à organiser avec la crise sanitaire et donc c'était aussi une des choses auxquelles tout le monde pensait. Ce qui était le débat, il était est-ce qu'il va plaider coupable et donc on va lui garantir qu'il ne sera pas condamné à mort, ou est-ce qu'il va y avoir un procès où il va nier un certain nombre de crimes. Et il y a eu tout un débat, parce que c'était un débat là-dessus, et c'est vrai que il n'aurait probablement pas reconnu notamment le premier meurtre, le meurtre de ce père de famille, le meurtre de cette adolescente que vous évoquiez tout à l'heure. Il n'aurait probablement pas reconnu s'il n'avait pas obtenu cet accord de plaider coupable. Donc c'est un débat qui a eu lieu. Ça a permis en tout cas que non seulement ils reconnaissent les 13 crimes et les viols qui étaient liés, mais aussi un certain nombre d'affaires de cambriolage et de viols qui étaient prescrites. Et donc, on en est aujourd'hui à une cinquantaine, en fait, de viols qu'il a reconnus. Il y a peut-être d'autres crimes qui n'ont pas été compris là-dedans, mais ça a permis au moins qu'il reconnaisse même des crimes qui étaient prescrits.
Élise Costa, pour le site slate.fr, Philippe vient de l'évoquer, le procureur Todd Spitzer a déclaré au procès qu'il aurait préféré la peine de mort pour cet homme. Ce sera donc la prison à vie. 13 meurtres et des dizaines de viols qui forment l'accusation. Est-ce que le compte y est, Élise Costa?
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a retrouvé, mais c'est vrai qu'on pense à lui pour des affaires un peu plus anciennes de 1972-1973. Je sais qu'en 1975, il y a eu le viol et le meurtre d'une jeune fille, et il a été, l'ADN là aussi a parlé, et ce n'est pas lui le coupable.
On n'a pas pu recouper avec d'autres affaires que celles qui étaient exposées à l'audience, c'est bien ça, hein?
Non, c'est bien ça. C'est déjà pas mal.
Et c'est déjà pas mal, effectivement, oui, parce que c'est tout à fait monstrueux. Et il faut le dire, Élise Costa, à ce procès, il y a eu et c'est également des parties civiles, des familles de victimes qui se sont présentées et qui ont eu des regards souvent très durs, des attitudes très dures vis-à-vis de l'accusé.
Ah oui, il y en a une notamment qui lui a dit « J'espère que tu pourriras dans ta cellule ». Oui, et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu que ce procès ait lieu assez rapidement. C'est que vous imaginez une affaire qui est vieille, qui a commencé il y a 40 ans. Même les enquêteurs eux-mêmes ont plus de 80 ans aujourd'hui. Il fallait qu'ils puissent venir témoigner et raconter leur travail. Donc c'est pour ça que même compte tenu de la crise sanitaire, etc., on aurait pu attendre l'année prochaine, mais en fait non. Ils ont préféré accélérer le processus.
Qui plus est, c'est un homme âgé qui commence d'ailleurs à être malade, et on avait peur effectivement aussi qu'il commence à perdre vraiment la mémoire et que ce procès n'ait pas lieu.
Oui, Joseph D'Angelo. Après, bon, alors c'est très bien qu'on l'ait entendu, parce qu'on a entendu la voix chevrotante d'un vieillard. D'ailleurs, quand il arrive à l'audience, il est dans un fauteuil roulant. Il a l'air d'avoir un pied dans la tombe. Et ce qui est amusant, entre guillemets, évidemment, c'est que peu de temps après sa condamnation, l'administration pénitentiaire a publié les vidéos de caméras de surveillance de sa cellule. Et en fait, on voit un homme très alerte qui répare des choses dans sa cellule, qui n'est pas du tout le petit vieillard.
Le petit vieux écrasé, écrabouillé.
Comme
dans
il s'est
son
présenté,
coin.
Exactement. Exactement.
Philippe Corbet, correspondant RTL à New York. On a longuement parlé tout à l'heure des sites de généalogie et puis qui ont permis la révélation de ce tueur. Est-ce que cet exemple ouvre aujourd'hui la porte à d'autres enquêtes aux États-Unis?
Je me souviens avoir parlé avec un enquêteur qui m'avait dit que c'était une révolution au moins aussi importante que l'utilisation des techniques d'ADN à partir des années 90. Il y a une autre affaire très différente, mais où là c'est la victime qui avait été identifiée, un squelette qui avait été retrouvé une vingtaine d'années d'un enfant au bord d'une route. Personne ne savait qui était. Et en fait, ils ont pu retrouver grâce à l'ADN identifier aussi le coupable, qui était en réalité son père et qui était déjà en prison. Et donc ça ouvre ce champ un champ immense. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, mais c'est aussi une question de moyens et de rapidité, mais on peut aussi imaginer que des viols sans crime, enfin sans meurtre, je veux dire, soient retrouvés de la sorte. Ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'il faut remonter tout l'arbre généalogique sur plusieurs générations, parfois jusqu'au 19e siècle, puis tout redescendre et après faire un travail plus classique de police sur, lui peut être dans cette catégorie-là, pas celui-là. Il y a quand même tout un travail humain qui reste. C'est pas l'ordinateur qui sort un nom.
Oui, tout à fait. Et Élise Costa nous l'a très bien expliqué. Élise Costa, on sans doute ça ne va pas se passer comme cela en France, ni même en Europe. Hein, c'est réservé aux États-Unis, histoire de site généalogique.
Non, non. Alors, déjà, aux États-Unis, c'était compliqué parce que, comme je vous ai dit, ils ont pu le faire sur un site. Parce qu'il y a beaucoup de sites aux États-Unis qui fournissent ce service de retraçage ADN, mais les autres refusaient. Ça tombait pas dans les conditions d'autorisation. Mais en tout cas, donc il y a un site aux États-Unis et en France, c'est même illégal.
C'est illégal, effectivement.
Tout à l'heure, c'est illégal. On peut être puni de 3 000 euros d'amende, même si jamais on est pris la main dans le sac. Mais non, c'est uniquement pour des raisons de santé ou sur injonction judiciaire, mais c'est tout.
La loi l'interdit. Merci beaucoup Élise Costa, vous étiez en direct du bureau RTL de Toulouse, où l'on salue l'ami Patrick Tégéraud. Merci à Philippe Corbet, je vous recommande d'écouter ses Lettres d'Amérique, formidable podcast, RTL. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, à Marc Bisset de l'avoir réalisée, et puis un immense merci à vous, nombreux, attentif, scrupuleux, qui suivait du lundi au jeudi, l'heure du crime.